Session Amitié Contemplation, Père Philippe, 1er juillet 1997, première conférence.
J'espère que vous avez bien dormi. Parce que quand on change de lieu. Parce que maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Après une introduction.
Amicabilis, comme disait le philosophe, elles sont aimables, elles attirent tout.
Alors, il faut d'abord découvrir en soi et dans les autres ce qui est aimable. Vous voyez, c'est la première grande expérience pour orienter sa vie. On désire quand même tous fondamentalement un certain bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? D'être bien dans sa peau, d'abord, en premier lieu, de s'aimer. Il y a là donc une expérience très fondamentale. L'amour. Et c'est vrai, c'est l'expérience sens qu'il est fragile. Il vous dit, prenez-moi. Je sens que vous me preniez. On a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui vous tient. Quand on est bien portant, on s'en inquiète pas beaucoup. Mais j'ai toujours vu ça. J'ai des malades. J'ai des gens malades, mais très conscients. Ils ont besoin qu'on les tienne. Qu'on soit un appui. On s'appuie. C'est pour ça qu'on prend une canne, vous voyez. Parce que la sensibilité des pieds ne suffit plus. Alors on prend une canne. Et la canne a l'avantage, c'est qu'elle ne vieillit pas. Alors, tandis que les pieds, ça peut vieillir. Pas avoir mal. Connaissance. Connaître. Et aimer. Distinction philosophique capitale qui fait partie de ce réalisme. On aime une personne, on connaît tout ce qui existe. Et je ne peux pas dire que j'aime tout ce qui existe. Non. Un gosse, quand il commence à se faire piquer par des orties, par des ronces, quand il se fait mordre par des chiens affamés, il dit sale bête, tout de suite.
Il vaut mieux les aimer que les connaître.
train de conscience philosophique merveilleux. Comme rectitude dans le discernement. Et ça fait très bien comprendre comment la connaissance est universelle. Je peux tout connaître. Il y a une curiosité de l'intelligence qui est bonne. Je ne dirais pas que c'est bon de tout aimer. Ah, attention. Parce que dès que j'aime quelqu'un, je me désarme. Et alors, si je me désarme, je ne peux plus faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je me laisse prendre. Je me laisse conduire. Et qui fait partie d'une certaine rectitude. Vous voyez, quelqu'un qui aime follement un petit chien. Je me souviens, c'était la réaction très saine d'un étudiant espagnol qui était à Fribourg faisant de la philosophie. Qui pendant les vacances voulait gagner quelques sous parce qu'il était très pauvre. Alors, il allait dans les grands hôtels de sport pour servir parce qu'il avait bien compris que c'était là où facilement les bourses se dénouaient. Dans ces lieux de sport, où on est joyeux, gay, et être là pour aider, soutenir. Alors, en revenant, spontanément, il me disait, ce qui était le plus terrible pour moi, c'est de voir qu'on respectait plus certaines personnes qui fréquentaient ces grands hôtels de sport. Ce qui était terrible, c'est de voir qu'on respectait plus les petits chiens, leurs petits chiens, que les hommes, les grooms, qui étaient à leur service, qui étaient des serviteurs. Alors, il me dit, ça m'écoeure. Aimer plus ces petites bêtes qu'on a choisies, qu'on aime. C'est très bien d'aimer un chien, mais si le chien devient un obstacle à aimer un homme qui vous sert, qui est là à votre service, oh, c'est effrayant. Corruption du cœur qui se fait par là. Plus dans l'ordre des choses. Vous voyez, il y a là quelque chose que le philosophe doit essayer de comprendre et qui est capital. Parce que c'est une fin de civilisation, ça. C'est le signe le plus marquant d'une fin de civilisation. Quand on commence à aimer plus des petits chiens que l'homme qui est là pour vous servir, ou que la femme qui est là pour vous servir. Et ça relève tout simplement cette distinction entre connaissance et amour. Il vaut mieux connaître tout ce qui est inférieur à l'homme que de l'aimer. Et quand il s'agit des réalités supérieures à l'homme, il faut aimer que de les connaître. Il faut encore les connaître pour les aimer. Et il vaut mieux. C'est au fond ça qui va éclairer profondément tout ce que représente l'amour d'amitié. Et tout ce que vous représente la contemplation. C'est curieux, mais c'est là tout de suite présent. Dans la connaissance de nous-mêmes et dans l'amour que nous avons pour nous. Dans l'amour que nous avons pour les hommes et la connaissance qu'on a pour eux. Alors essayons de découvrir ça profondément. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Si on voulait traiter la question au plan philosophique et la traiter d'une manière parfaite, il faudrait faire une petite topique historique sur l'amour. Comment presque tous les philosophes ont parlé de l'amour. Ils en ont parlé très différemment. Et nous-mêmes, nos expériences d'amour sont très, très différentes. Il y a en nous des possibilités d'aimer qui sont très étonnantes. Nous avons conscience d'aimer. La conscience, c'est l'intelligence au service de l'amour. C'est ça, être conscient. C'est l'intelligence au service de l'amour. Et ma conscience s'éveille à travers l'amour. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de conscience. On peut faire n'importe quoi. On est lucide, mais il n'y a plus de conscience. La conscience et la responsabilité, c'est quand même cela qui me permet de me connaître. Ma vie. J'ai conscience que je suis capable d'aimer. J'ai conscience que je suis responsable de mon amour à l'égard d'un autre et de répondre à son amour. Conscience et responsabilité à l'intérieur de mon amour. C'est une expérience intérieure, ça. L'amour s'éveille d'abord d'une manière instinctive. Comment ça se fait qu'on dit habituellement les goûts divers pour chacun? Des personnes, j'en ai connu, aimer un bon chien. Voyez, les sympathies et les antipathies, c'est quelque chose d'instinctif. On ne sait pas pourquoi. Alors on peut les étudier, on peut dire ça dépend de l'éducation, pas entièrement. Il y a quelque chose de beaucoup plus radical qui fait que naturellement, il y en a qui sont portés vers certains animaux, certaines nourritures. Il y a un instinct de sympathie. La sympathie, c'est une forme d'amour. Fondamental, parce que nous sommes des êtres qui avons un corps, qui avons une sensibilité, et qu'il y a en nous des tas de choses que nous connaissons très mal, tout un atavisme. attachée aux antipathies et touchée à l'instinct. Tandis qu'au contraire... maîtriser. Mais il faut la dominer. C'est terrible, quelqu'un qui est dominé par la passion. La passion s'éduque au très grand sens. Éduquer, c'est-à-dire, elle peut servir à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est l'éveil en nous d'un amour spirituel. L'éveil en nous d'un amour spirituel volontaire. La passion réveille notre cœur, notre volonté. Alors ici, pour faire une petite distinction qui est très importante dans notre langue française, depuis quelques siècles, on peut préciser à partir de quelle époque on oppose un homme de cœur et un homme volontaire. Quand vous dites de quelqu'un, ah, il est très volontaire, il manque un peu d'affectivité, vous savez tout de suite, hein, vous pensez tout de suite à tel ou tel, très volontaire. Quand il veut quelque chose, il le veut jusqu'au bout. C'est un homme volontaire. Dans le langage français, un homme volontaire veut dire un homme qui sait ce qu'il veut et qui ira jusqu'au bout. Tandis que quand vous dites celui-là, il est d'une affectivité telle que sa volonté disparaît, ça coule. Passionnel. C'est très curieux. même la présence de ce petit chien, parce que je l'aime passionnément. Pour le petit chien, c'est normal. Mais pour une personne humaine, non. Si je l'aime vraiment, je désire son bien. Au-delà de la joie qu'elle me procure. Oui, c'est là où on peut faire la différence entre jouissance passionnelle et joie spirituelle. La jouissance passionnelle est toujours égocentrique. C'est moi que j'aime. C'est ma jouissance que je cherche. Tandis qu'au contraire, quand j'aime d'une manière spirituelle, c'est l'autre que j'aime. Et parce que je l'aime, je veux son bien. Et je le laisserai passer devant. Ce n'est plus moi qui est premier. C'est celui que j'aime qui est premier. Donc, vous voyez là déjà une très grande diversité. Et je dis toujours amour. C'est curieux. L'instinct sympathique, c'est un amour. La passion et l'éveil de l'amour spirituel. Et très souvent, entre la passion et l'éveil de l'amour spirituel, il y a un amour imaginatif, un peu romantique. J'aime à rêver à l'égard de celui que j'aime. Ça reste sensible. Est très souvent passionnel. Le romantisme est une affectivité passionnelle. Purifiée ou alourdie par l'imaginaire. Parce que l'imaginaire a cette possibilité d'alléger la passion. Et elle a ce pouvoir aussi de la pesantir. Étonnant tout l'amour imaginatif d'un rêve. Aujourd'hui, ça a pris des dimensions énormes parce que le toxicomane, c'est au fond celui qui veut rêver. Notre monde réel est souvent si triste qu'on veut s'évader. On s'évade de ce monde réel, si triste. C'est vrai, quand vous voyez les têtes de gens d'un métro de Paris, le matin, très tôt, c'est pas drôle. Ou le soir, tard, c'est pas drôle. Vous regardez ces têtes, pauvres gens. Et il y a des personnes qui peuvent pas supporter ça. Parce que c'est cavardeux. L'imaginaire joue un rôle énorme dans notre monde d'aujourd'hui. Et cet amour imaginaire, romantique, c'est un amour d'évasion. On se crée son monde. On se crée ses têtes, ses masques. C'est ça le masque grec. Et le masque encore très diminué aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus besoin. On a le cinéma. vais sortir de mon ennui. De cet ennui si lourd, si pesant, je m'évade. Un amour d'évasion. C'est un amour, mais d'évasion. Alors là, il y a quelque chose de très curieux. Parce que le véritable amour, c'est à l'égard d'un bien qui existe. Je ne peux pas aimer une réalité possible. Mais l'imaginaire nous fait croire que c'est une réalité. C'est un monde différent, imaginaire, que je me crée à moi-même. Satisfaire. Et ça va très loin, cela. Et on alimente aujourd'hui ce monde imaginaire. On l'alimente d'une manière extraordinaire. C'est terrible parce que c'est juste l'inverse d'ennoblir quelqu'un, de l'éduquer, permettre d'aller plus loin. Peut-être que la plus grande difficulté de notre culture d'aujourd'hui, c'est de sortir de l'imaginaire et d'entrer